À la lecture du bulletin qui contenait cette circonstance, il n'y eut qu'un cri parmi la malveillance à Paris et renfermait un mensonge, disait-on. C'était l'empereur lui-même qui avait ordonné l'explosion pour sauver sa personne aux dépens du reste de l'armée. Vainement objectait-on la version des officiers qui, en confirmant le fait, sont justifiés. On répliquait que c'était un nouveau mensonge ou bien une complaisance à être jugée de la part de l'officier. Tel était le langage du temps. L'on a vu plus haut des déceptions de l'Autriche, sa duplicité, sa mauvaise foi, les nombreuses contradictions entre ses actes et ses paroles. C'est qu'oublions la générosité dont elle avait été l'objet après l'aubaine. Austerlitz et Wagram, elle s'acquittait selon les maximes de la politique et on saisissait avidement l'occasion de réparer ses pertes à tout prix. On a vu qu'elle nous a perdus en nous faisant consentir à l'armistice de Pleiswitz. Et sa conduite était d'autant plus odieuse qu'elle était déjà décidée à nous faire la guerre et qu'à peu de jours de là, son cabinet, bien que toujours notre ami, notre allié et s'offrant pur médiateur, prenait des engagements contre nous. On sait à présent son accession aux conventions de Reichenbach vers le milieu de juin et sa participation aux conférences de Trachtenberg au commencement de juillet, la nécessité d'une certaine pudeur fit tenir des choses secrètes. Un mois encore après le commencement des hostilités, on ne les présenta d'abord à François, qui, comme des mesures ponctuelles et précautionnelles, et ce ne fut qu'en lui peignant Napoléon comme un flot. Est en lui attribuant les retards de l'ouverture du congrès, qu'on reculait soi-même, qu'on vint à bout de l'affaire, à poser sa signature. Telle fut la conduite de l'Autriche. Et Napoléon, pourtant, cessa d'entretenir l'arrière-espérance de l'avoir revenu à lui, non qu'il pût compter sur aucun précédé, mais parce qu'il a supposé assez clairvoyante sur ses véritables intérêts. Ce sentiment ne l'a abandonné qu'en signant son abdication. Les forteresses occupées par les troupes françaises, comprises dans les parties occupées par les armées combinées, devaient avoir au lieu des rayons autour de leur enceinte et tente ravitaillée. Tous les 5 jours, cet article ne fut pas exécuté de bonne foi. Quand l'armistice fut prolongé, les commissaires français demanderont que des officiers de leur armée fussent envoyés aux commandes, dont les forteresses. Mais le général en chef russe s'y refusa et les circonstances étaient devenues telles qu'on fut obligé d'en passer par là. Les chefs de l'état-major du troisième corps, Suisse de nation, mis élevé dans nos rangs, passa à l'ennemi peu de jours avant la reprise des hostilités. Il y porta tous les renseignements qu'il avait pu recueillir. L'empereur de Russie le récompensa de ce service par une faveur particulière et en faisant un de ses aides-de-camp. On dit que cet officier d'un grand talent, assure-t-on, avait à se plaindre de quelque injustice. Mais on est-il qui puisse légitimer un tel acte et sauver de la condamnation qui prononce la morale? Une partie du plan des campagnes arrêtées par Napoléon avait été que l'armée bavaroise stationnée sur le Danube a géré des concerts avec l'armée d'Italie stationnée en Illyrie. et que leurs efforts réunis se porteront, suffiennent. On sent de quel poids où sont été de telles mesures sur les destinées de la campagne, mais le chef de l'armée bavaroise, tout un prétexte au nôtre, est vrai parce qu'il était intelligence avec l'ennemi, demeura constamment inactif, paralysa le viscera sur lequel se porteront les principales forces autrichiennes, on ne veut plus haut que la défection ouverte de cette armée, parvenue à l'empereur au plus fort de la crise, devint une des grandes causes de notre destruction. Mais de tout ce que nous venons, n'est pas curieux. Rien ne calme que le scandale et l'ignominie de la trahison des Saxons qui, nos frères de Paris et de fortune, dont nos rangs même se retournant subitement contre nous pour nous égorger. Quel côté étendu? Qui était le dommage qu'ils nous ont causé? Le honte mieux encore plus grand que tout le mal qu'ils nous ont fait. La conduite de Napoléon, en cet instant, de lui qu'on se plaisait à cette époque à dépeindre comme l'homme de la déception et de la mauvaise foi, par excellence, démue une belle leçon de magnanimité et de véritable grandeur. Il avait joint une cour de Saxons à sa garde impériale. Il les range au-dessus de l'heure souverain qui reste à Leipzig. Les dégagions de tous ses engagements vis-à-vis de lui, il se trouvait encore des Bavarois dans son armée. Est-il fait écrire à leur chef que la Bavière venant de lui déclarer déloyalement la guerre. Cette circonstance a durcirée à les désarmer et à les retenir prisonniers de guerre. Mais que de tels actes sont contraires à la confiance que Napoléon veut que les troupes à ses ordres aient en lui. Et il leur fait donner des vivres et les renvoie. L'histoire comparera. J'ai sous les yeux des notes d'un officier très distingué relatif à la capitulation de Dresde, énumérant tout ce que nous avions laissé dans les places dont nous demeurions séparés. Il porte le total à 180 000 hommes. L'empereur n'en avait que 7 000 à Leipzig, et quelle différence dans nos destinées si cette masse ou seulement une partie se fut trouvée sous sa main dans ces événements décisifs. Mais les circonstances forcées et non un système suivi avaient aligné cette malheureuse dispersion. Voici ce que je trouve littéralement dans ces notes touchant la violation de la capitulation de Dresde.